Amis auditeurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver sur nos ondes locales pour une nouvelle chronique du passé. Bonjour Michel.
Bonjour Gilliane, bonjour à tous. Par ce temps hivernal, nous vous proposons une balade dans les rues de Bourg-en-Bresse. L'idée peut paraître saugrenue.
Oh non, pas tout à fait. Rendons d'abord hommage à tous ces ouvriers qui effectuent des travaux routiers, quel que soit le temps. Comme de nombreux auditeurs l'ont remarqué, ils s'activent beaucoup en ce moment, dans les alentours du chef-lieu du département.
Certains travaux se déroulent à la sortie de Bourg-en-Bresse, du côté de Peronnat. Une occasion pour nous d'évoquer le passé de cette route qui conduisait de Bourg vers Lyon.
Nous le faisons après avoir écouté Charles Trenet dans « L'âme des poètes ».
Longtemps, longtemps, longtemps après que les païens ont disparu, leurs chansons courent ton corps dans les rues. La foule les chante un peu distrait en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait son cœur.
Nous évoquons ce que l'on appelait le faubourg de Lyon. Autrefois, la ville de Bourg, devenue officiellement Bourg-en-Bresse en 1955, était ceinte de fortifications, bordée de fossés plus ou moins bien entretenus, mais où on élevait des carpes.
C'est une image passéiste, mais bien réelle. Cet aspect moyenâgeux cesse dans la décennie qui précède la Révolution, au moment où la royauté autorise l'arasement des tours et des fortifications et le comblement des fossés.
C'est le point de départ de notre chronique du passé. Nous démarrons à l'ancienne porte de Lyon, que l'on peut situer juste un peu plus bas que l'actuelle entrée vers le parking de la préfecture, avenue Alsace-Lorraine.
Partons donc de ce point. À notre droite, il y avait là la fontaine de Lyon. La ville réaménage le lieu pour y installer la pyramide Joubert, en l'honneur du général Joubert, mort au combat en Piémont, lors des guerres napoléoniennes en 1799. Il était né à Pont-de-Vaux. Mais cette pyramide a aussi sa propre histoire.
C'est le comte de Morvel qui l'a d'abord fait élever dans sa propriété au château de Challes. Comme nous le savons, la noblesse est tombée en disgrâce et s'est bien récupérée. Après l'assassinat de Marat en juillet 1793, Bourg décide de justement récupérer la pyramide et de la déplacer place d'armes au centre-ville comme un monument commémoratif à Marat.
Puis les temps changent et la pyramide est à nouveau déplacée, sans but précis, au bastion. Jusqu'en 1803, où l'on pense alors à la recycler en un monument à la gloire de Joubert, à l'emplacement de la fontaine. Sur sa base, quatre plaques de marbre noir sont apposées pour rappeler les faits d'armes du général. La pyramide restera là plus d'un siècle, à subir les outrages du temps. Les plaques vont même éclater sous l'effet du gel. Puis la ville enlèvera la pyramide pour y aménager un square fleuri au début des années 1930.
Nous avons évoqué Napoléon. Le pays lui doit la création des préfets, un par département. Comme Bourg est le chef-lieu de l'Ain, il lui faut une préfecture digne de ce nom. Et c'est en face du square qu'elle est érigée, après la pose de la première pierre, le 6 septembre 1855. Le bâtiment, en forme classique de U, est inauguré le 1er mars 1860. Et le général hante toujours les esprits bressants.
Eh oui. Alors la ville pense qu'une statue de bronze du général pourrait orner la cour d'honneur. On passe la commande au sculpteur lorrain Paul Aubé. Et cette statue est inaugurée le 12 octobre 1884, lors d'une cérémonie grandiose, en présence des autorités civiles et militaires, et en présence aussi du 23e régiment d'infanterie, caserné depuis une dizaine d'années à Bourg. Nous sommes sous la 3e République, qui aime statufier les grands hommes du passé.
Cette statue restera en place jusqu'à la fin de 1942, où le régime de Vichy prend le prétexte de la récupération des métaux non ferreux pour retirer l'ensemble ou presque des statues. Cela permet d'effacer du paysage urbain des hommes qui ne correspondent pas à l'idéologie du moment. Oublions ce passé peu glorieux et revenons à la préfecture elle-même qui, peu après l'arrivée de la statue de Joubert, subit un incendie.
Cela se passe dans la nuit du 12 au 13 décembre 1885, il y a 140 ans. Un calorifère défaillant provoque l'embrasement complet du bâtiment. Pour la reconstruction, le département fait appel à l'architecte local, Tony Ferré. Il est décidé de rehausser et d'embellir le bâtiment et de placer un fronton avec une horloge. Deux statues de Paul Houbet sont placées de part et d'autre. L'une, une femme, représentant la Bresse avec une serpe et une gerbe de blé. L'autre, un homme, pour le bûcher, avec sa grappe de raisin et son piochon. Avant de reprendre notre marche, jetons un coup d'œil en arrière.
La percée de l'avenue Alsace-Lorraine a été réalisée en 1895 et la ville aère son centre et s'ouvre sur l'extérieur. Bordée par de beaux immeubles haussmanniens, l'avenue réalise la jonction entre le centre-ville et la gare. Désormais, l'emplacement de l'ancienne porte de Lyon est occupé par un carrefour qui verra passer tous les défilés, ceux des sportifs de la Belle Époque, puis ceux mémoriels et patriotiques d'après la Première Guerre mondiale, après l'édification du monument aux morts à l'angle du square des Quinconces.
Juste avant cette Première Guerre, le cinéma Eden sera construit côté est de ce carrefour. Ce cinéma évoluera et deviendra un haut lieu de la vie culturelle bressane. Dans les années 1950-1960, il accueillera les vedettes de la chanson de la variété française que les jeunes entendaient à la radio grâce au développement des transistors et à la célèbre émission « Salut les copains ». Le public a pu ainsi applaudir Gilbert Bécaud, Johnny Hallyday, Jacques Brel, Pétula Clark, Marcel Amont et d'autres encore, toujours présents sur nos ondes. Le cinéma a été fermé en octobre 2008.
Refermons cette parenthèse enchantée du music-hall et reprenons notre marche vers le sud pour apercevoir deux bâtiments récents. Celui des archives départementales, ajouté dans le prolongement de la préfecture en 1909, l'inscription « Archives » y figure toujours sur le haut de l'édifice en pan coupé.
En face de la préfecture a été élevée la caisse d'épargne en 1914 dans un style néo-gothique. Présente à Bourg depuis 1834, la caisse d'épargne offre là un meilleur accueil au public. On peut noter que le franc français est encore une monnaie de référence pour l'économie en général, voire mondiale. Le français est la langue officielle de la diplomatie, mais cela cessera lors des traités de la fin de la guerre mondiale.
Nous arrivons au carrefour de Bicêtre, du nom de l'emplacement de l'actuel lycée Marcel Pardet. Le bâtiment précédent a été un dépôt de mendicité, selon les termes de l'époque, une maison d'arrêt et de correction, une écurie pour la cavalerie et enfin une caserne de gendarmerie. L'historique est diversifié. Et tout cela laisse la place à un lycée de jeunes filles inauguré le 25 octobre 1888. Il s'agit alors d'éduquer ces jeunes filles pour qu'elles se comportent ensuite en dignes épouses dans la société bourgeoise à laquelle elles appartiennent. Elles ne seront pas d'accord et vont s'emparer de cette opportunité pour revendiquer une formation au brevet d'enseignement pour rentrer dans la vie active. Ce lycée a été dénommé lycée Edgar Quinet en 1903 pour le centenaire de la naissance de l'écrivain philosophe, par ailleurs chantre de la laïcité.
En face, à l'emplacement de l'actuel palais de justice, de longs et hauts murs ont longtemps caché l'asile d'aliénés sur un terrain acheté par la préfecture en 1824. Géré par la confrérie Saint-Jean-de-Dieu, il a d'abord accueilli des hommes et des femmes, puis il a été confié aux sœurs Saint-Joseph, pour les femmes seulement, sous l'appellation d'asile Sainte-Madeleine, puis hôpital psychothérapeutique.
Si nous longeons les murs du lycée, nous arrivons au Café Voltaire, situé à l'angle de la rue du même nom. Ce café a été un point de contrôle pour les premiers Tours de France cyclistes de 1905 à 1907. C'est aussi le carrefour de la rue Alphonse-Baudin qui conduit à la gare que l'on aperçoit en arrière-plan. La gare qui a fait entrer la Bresse dans la modernité des échanges commerciaux en 1856.
Et nous continuons par le faubourg de Lyon, qui deviendra l'avenue Jean Jaurès, très commerçante dans ce quartier de Bel Air, qui aura son église en 1942. À mi-parcours, au carrefour, une école protestante s'est installée à la fin du XVIIIe siècle. Mais, ne parvenant pas à recruter de nouveaux élèves, elle a cessé son activité. Elle a été remplacée, à partir de 1903, par l'école Jeanne d'Arc.
Peu après, nous arrivons à l'ancien passage à niveau numéro 28, qui a fait couler beaucoup d'encre. 10 ans après son installation sur la route nationale 83, les premières plaintes arrivent en mairie de Bourg, car les barrières restent fermées trop longtemps, notamment les mercredis de foire. La ville fait étudier l'installation d'un passage supérieur, mais l'argent manque. La solution viendra par une surtaxe sur les billets et les marchandises arrivant ou partant de Bourg.
Ce pont est ouvert le 31 juillet 1906, mais en archives ou dans les journaux locaux, on ne retrouve pas d'inauguration officielle. C'est pourtant une belle réalisation, comme le montrent les cartes postales anciennes, au fil de l'avancée des travaux et du lancement des longues poutres métalliques. Ce pont est important, car il permet au tramway de relier les gares de Bourg-Maille et de Bourg-Centrale, près de l'allée de Châles.
Cette deuxième gare est opérationnelle en 1913, avec l'ouverture du tramway entre Bourg et Tréfort. Le temps de faire les études et la guerre survient. La liaison est réalisée en 1920 et la ligne franchit le pont, suit l'avenue de la gare côté ouest, puis emprunte la promenade du Mail, le Champ de Mars et descend par la rue Gabriel-Vicaire et la place Caria pour franchir peu après la Ressouze.
Ce pont de Lyon surplombe les voies du PLM, chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. Côté nord, une vue panoramique s'ouvre sur la gare et ses mouvements de train. Côté sud, sur la remise des locomotives et la ligne vers la Cluse. Pour les enfants, c'est un endroit idéal pour s'émerveiller devant les mouvements produits par les locomotives à vapeur.
À la sortie du pont de Lyon, à partir de 1913, s'élève le château d'eau au pied de l'immense réservoir aménagé en 1879 pour recueillir les eaux descendant de l'An par gravité. Nous sommes désormais sur la route de Lyon. Ce quartier s'est urbanisé et des commerces se sont installés de part et d'autre. L'appellation Faubourg de Lyon, autrefois limitée à notre avenue Jean Jaurès, s'est alors tout naturellement étendue vers le sud, jusqu'à la limite de Bourg. Jusqu'à l'après-Seconde Guerre, on voit des groupes de cyclistes qui travaillent à la TCB, Tréfilerie Câblerie de Bourg, implantée ici depuis 1906. Elle va se développer jusqu'à employer 1400 ouvriers spécialisés, travaillant en service continu par roulement.
Elle a été, et elle est encore, un des fleurons de l'industrie bressane. En bordure de route, on voit les anciennes cités PLM pour accueillir les familles de cheminots. À proximité et au pied de ces cités, il reste encore des jardins ouvriers et les jeux de boules à la lyonnaise du Racing Club des cheminots bressans. Ce club est encore actif. Et il est l'un des derniers alors que la ville comptait un club bouliste dans chacun de ses quartiers jusque dans les années 1980-90.
Nous sommes arrivés à la limite de Bourg. Pour retrouver les illustrations de ce passé, nous invitons nos auditeurs à feuilleter le site des Chroniques de Brest, notre partenaire. Nous les quittons en remerciant Jimmy à la technique, Claude et Rémi pour leur aide documentaire.
Et nous vous retrouverons le mois prochain pour évoquer Pérona, une commune qui a eu un développement exponentiel. Nous nous quittons avec une chanson d'Yves Montand, Les Grands Boulevards. Au revoir.
Au revoir.
J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule. J'aime les baraques et les bazars, les étalages, les loteries et leurs camelots bavards. Qui vous débite leur bobard, ça fait passer le temps et l'on oublie son cafard. Je ne suis pas riche à millions, je suis tourneur chez Citroën. Je peux pas me payer des distractions tous les jours de la semaine. Aussi moi j'ai mes petites manies qui me font plaisir et ne coûtent rien. Ainsi dès le travail fini, je file entre la porte Saint-Denis et le boulevard des Italiens. J'aime flâner sur les grands boulevards, y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. On y voit des grands jours d'espoir, des jours de colère qui font sortir le populaire. Là vibre le cœur de Paris, toujours ardent, parfois frondeur, avec ses chants, ses cris. Et de jolis moments d'histoire sont inscrits partout le long de nos grands boulevards. Flâner sur les grands boulevards, l'espoir d'été quand tout le monde a bien se coucher tard. On a des chances d'apercevoir deux yeux angéliques que l'on suit jusqu'à République. Puis je retrouve mon petit hôtel, ma chambre ou ma fenêtre donne sur un coin du ciel, d'où me parvient comme un appel toutes les rumeurs, toutes les lueurs du monde enchanteur, des grands boulevards.